Nous nous retrouvons à nouveau au congrès de la Société française de recherche opérationnelle et d'aide à la décision 2026 qui se passe à Tours. Et nous interviewons Pierre Vendée, un post-doctorant à la Western University à London dans l'Ontario, qui est en visite au Politecnico de Milan et qui a fait spécialement le déplacement à Tours pour présenter l'avancée de ses travaux sur la flotte de véhicules électriques. Bonjour Pierre Vendée.
Bonjour.
Est-ce que vous pourriez nous présenter en deux mots pour nos auditeurs votre parcours universitaire et le domaine de recherche que vous explorez en ce moment ?
Très bien. Alors, j'ai obtenu un diplôme d'ingénieur en informatique en 2019. À la suite de ça, j'ai fait non pas un, mais deux doctorats. Donc un premier doctorat au HEC Montréal, au Canada, dans le domaine de l'administration, de la gestion d'opérations et de la logistique, pour avoir un aspect managérial d'aide à la décision. Et ça a été complété par un second doctorat en informatique, ici à l'Université de Tours, afin de s'attaquer plus à des problèmes computationnels et donc de faire des calculs, des algorithmes, des méthodes de résolution pour obtenir des meilleurs résultats managériaux. Pour ces deux doctorats, il m'a fallu un total de 5 ans, parce que voilà, un doctorat, déjà, c'est 3 ans, donc 2, ça augmente la durée pour le doctorat. Et maintenant, je suis chercheur postdoctoral à la Ivy Business School, qui est l'école de commerce de la Western University à London, en Ontario. Et comme vous avez dit, je suis actuellement en visite à Politecnico di Milano, parce que la vie de chercheur, c'est avant tout une vie de collaboration avec des gens parfois locaux, parfois à l'étranger. Et pour travailler avec des gens à l'étranger, c'est parfois mieux d'aller voir, les visiter sur des périodes plus longues ou plus courtes. Et donc, voilà.
Merci, chers auditeurs et éditrices. Dans une précédente interview, nous étions plutôt sur un aspect très théorique de la recherche opérationnelle et on voit bien que la recherche opérationnelle ruisselle aussi dans des domaines très divers. Nous avons eu une interview sur la gestion du personnel hospitalier et là, nous avons une interview sur la logistique et notamment la logistique des flottes de véhicules électriques. Pierre Vendée, en quoi la recherche opérationnelle, ces modèles et ces résolutions permettent de faire avancer les problèmes contemporains sur la logistique dans les véhicules électriques et la gestion des flottes de véhicules électriques?
Alors, il faut savoir que dans un contexte de lutte contre le réchauffement climatique, nous sommes tous encouragés à une électrification de nos moyens de transport, que ce soit pour le transport personnel avec les voitures ou pour le transport en commun, que ce soit les bus, les trains, etc. Toute cette transformation des transports demande un certain investissement et aussi a une conséquence sur l'utilisation de ces véhicules, à savoir qu'avoir un véhicule électrique, c'est bien, mais il faut pouvoir le recharger. Mais les capacités énergétiques de nos environnements, de notre ville, de nos environnements, n'étaient pas à la base adaptées pour ce genre de situation. Et donc, on a besoin de modèles d'aide à la décision pour décider combien de véhicules est-ce qu'on peut se permettre d'acheter pour faire certaines opérations, comment est-ce qu'on peut designer des infrastructures de recharge pour une flotte de véhicules de livraison, ou alors une flotte de bus, ou alors pour tout un quartier. Et donc la recherche opérationnelle, c'est avant tout un ensemble d'outils, de méthodes qui vont permettre d'optimiser une situation. Donc c'est, on va dire, l'intersection entre l'aide à la décision, le pourquoi on va faire quelque chose, le mathématique, comment on va faire ça de manière théorique, et l'informatique, donc comment on va faire ça, comment on va résoudre à l'aide d'algorithmes.
Dans le cadre des flottes de véhicules, vous avez parlé de l'implantation des bornes, des différentes bornes de recharge. C'est un petit peu le cœur de votre problématique ou c'est autre chose le cœur de votre problématique?
Alors, ayant travaillé pendant ma thèse, notamment sur les bus électriques, la localisation et le dimensionnement d'infrastructures de recharge a été une de mes thématiques principales. D'accord. Par le passé. Étant donné que je travaille actuellement sur plutôt des thématiques liées à la livraison, pour lesquelles nous avons déjà une infrastructure de recharge, je m'attaque plutôt sur des problèmes de dimensionnement de flotte, à savoir lorsqu'on veut faire des livraisons, combien est-ce qu'on doit acheter ou louer de véhicules sur l'année à venir afin de satisfaire tous les besoins en livraison de nos clients. On pourrait penser notamment à Amazon qui fait régulièrement, ou La Poste qui font régulièrement des livraisons de paquets, qui visitent des clients. Et il peut être intéressant pour ces entreprises de savoir en amont combien de véhicules est-ce qu'ils vont devoir acheter ou louer pour permettre de satisfaire toute la demande client.
Donc là, effectivement, ça correspond à une demande d'entreprise. Dans votre premier sujet de recherche qui est l'implantation des bornes de recharge, c'est plutôt des problématiques de politique d'aménagement et public. Et dans ce cadre-là, dans la modélisation, le choix des critères est important. Est-ce que vous mettez en place des critères de sobriété? Est-ce que vous mettez en place des critères de préférence des habitants? Ou est-ce que le critère du coût minimal et le critère prépondérant?
Alors, de manière globale, c'est le coût qui va permettre de définir qu'est-ce que va être une bonne solution. Après, l'interrogation, ça va être qu'est-ce que va traduire ce coût? Peut-être qu'un coût peut aussi traduire le fait que les habitants locaux ne veulent pas avoir d'un chargeur installé près de chez eux à cause de nuisances. Et donc, cela fera artificiellement monter le coût d'installation à un endroit. Et peut-être qu'on va vouloir installer, par exemple, des chargeurs Place Jean Jaurès à Tours, vraiment vouloir les installer. Donc même si ça peut demander un certain investissement financier, dans notre modèle de décision, on va pondérer ce coût par, on va dire, une envie d'installer un chargeur à un endroit, ce qui va faire diminuer, on va dire, le coût effectif d'installer un chargeur à cet endroit. Et donc, le fait d'avoir un coût qui est une espèce de composition entre le vrai coût pécunier, la volonté d'installer un chargeur à un endroit, ou même la capacité d'installer un chargeur à un endroit, parce qu'il faut que ce soit connecté à la grille énergétique. Voilà, il y a plusieurs contraintes à prendre en compte. Et donc, c'est tout ça qu'on va combiner dans un espèce de coût opérationnel d'installer un chargeur à un tel endroit.
Ah oui, c'est intéressant comme approche de mettre finalement... d'intégrer dans le modèle des coûts prohibitifs pour éviter d'aller dans certaines solutions qui n'auraient pas les préférences soit de la population, soit de l'éthique du chercheur lui-même.
Exactement. Et c'est quelque chose qui est très, très régulièrement fait. Mais au final, ça reste quand même optimiser des coûts. Et la question, c'est qu'est-ce que votre coût ?
C'est le premier point de départ de recueil des besoins et de travail en équipe avec le demandeur. Et ensuite, une fois que la recherche est avancée, il s'agit d'en rendre compte lors d'un congrès. Donc, qu'est-ce que vous attendez de votre participation à ce congrès 2026 de la ROADEF, de rencontrer des pairs, de susciter des émules, d'aller vous faire connaître vos recherches et vos voies d'amélioration?
Alors l'objectif d'un congrès comme la ROADEF, il est tout à fait multiple. D'une part, comme vous avez dit, on rencontre de nos résultats à la communauté scientifique, ce qui permet des fois aussi d'avoir des retours et des questionnements que nous-mêmes, en tant que chercheurs, on n'a pas eu lorsqu'on a étudié notre problème, parce qu'on passe 6 mois, 1 an à travailler sur un problème. Parfois, on a ce qu'on appelle un effet tunnel sur le problème et on ne voit pas des problématiques adjacentes qu'on n'aurait pas à penser. Et donc, présenter à une conférence permet d'avoir des interrogations, des questionnements qu'on n'a peut-être pas anticipés. D'autre part, l'objectif d'une conférence comme ça, c'est de voir qu'est-ce qui se fait dans la communauté scientifique, quelles sont les recherches qui sont également effectuées, parce qu'on ne fait jamais de recherche tout seul dans son coin. On réagit par rapport, on va dire, à un environnement de recherche pour éviter que deux chercheurs fassent la même chose et éventuellement, si il y a des thématiques qui sont proches, cela peut créer des collaborations à l'avenir. Et je dirais le troisième objectif d'une conférence comme ça. Donc il faut savoir que la conférence de la RODEF, c'est tous les ans depuis plus de 20 ans. Et donc ce sont des gens qui se voient tous les ans depuis plus de 20 ans. Donc c'est aussi l'occasion de voir les autres chercheurs qui souvent deviennent des amis, des collègues et donc des gens qu'on a l'habitude de voir d'un point de vue en dehors, d'un point de vue social. Et donc c'est aussi l'occasion de revoir les copains.
Tout à fait, c'est une grande famille aussi, cette communauté des chercheurs en recherche opérationnelle, mais une grande famille aussi internationale. Chacun se sent plus ou moins citoyen du monde. Le fait, vous, d'être à la fois canadien, ontarien, je ne sais pas si ça se dit, fait des études en France, de les poursuivre à Milan. D'abord, c'est un clin d'œil pour nos auditeurs à travailler leur langue.
Bien sûr.
Et puis, voilà, comment, vous qui avez voyagé sur plusieurs continents, qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur la façon dont la recherche s'y organise, dont l'enseignement, dont finalement la vision du monde est complémentaire et en même temps donne des perspectives.
Alors, on a la chance en recherche opérationnelle, mais aussi en informatique de manière un peu plus globale, que la recherche soit quelque chose qui n'a pas de frontières. Dans le sens où un problème de tournée de véhicules qu'on pourrait avoir en France, on pourrait aussi l'avoir aux États-Unis, en Allemagne, en Italie, partout. Donc ce qui fait qu'on peut facilement collaborer avec ces personnes qui ont d'autres problématiques, qui sont dans d'autres, enfin, parfois qui ont les mêmes problèmes mais dans d'autres contextes, qui vont demander d'autres contraintes et donc obtenir d'autres résultats. Et donc c'est très important de pouvoir communiquer avec ces personnes qui n'habitent pas forcément en France, qui ne parlent pas forcément le français. Mais il faut savoir que l'objectif toujours de nos recherches à la fin, c'est de communiquer ces recherches, donc soit à travers des congrès, soit à travers des publications scientifiques. Et une immense majorité de la littérature scientifique se fait en anglais. Et quand je dis une immense majorité, c'est 99% de la littérature est en anglais. Donc tous les chercheurs sont tous bilingues. Ils parlent tous très très bien anglais. Et comme vous avez dit, les chercheurs sont aussi des enseignants. Donc on a des étudiants entrant, sortant, les mobilités, l'Erasmus, etc. Toutes les universités en France ont régulièrement des étudiants qui ne parlent pas français. Et donc les enseignants sont à même de faire leurs cours en anglais. Et donc cette internationalisation est en fait pas uniquement pour la recherche, pas uniquement pour la recherche opérationnelle. C'est tout le monde universitaire qui est internationalisé. Et donc pour nous, il n'y a pas vraiment de sens de frontières d'un point de vue de la recherche, ce qui nous amène donc à commencer à travailler en France, puis partir au Canada, puis partir en Italie par exemple.
Alors justement, question additionnelle pour nos auditeurs. Donc si on a bien écouté, il y a deux PhD, n'est-ce pas, deux doctorats, un post-doctorat. Donc c'est quoi le prochain cerceau enflammé c'est quoi le prochain objectif? C'est un poste de chercheur définitif dans une université?
Exactement, c'est le Graal pour tous les jeunes chercheurs. Donc une fois qu'on a fini le doctorat, on a besoin d'augmenter notre expérience en recherche, donc générer des publications, de montrer notre valeur en tant que scientifique et de manière indépendante, en dehors de nos encadrants de thèse passés. Et donc une fois qu'on a ça, on cherche tous, donc pour ceux qui souhaitent rester dans le monde universitaire, on cherche tous un poste d'enseignant-chercheur, donc de maître de conférence, qui permettent de rester de manière indéfinie, de manière infinie, dans ce monde universitaire.
Ah, donc vous, c'est votre souhait, par exemple?
C'est tout à fait mon souhait, oui.
C'est la recherche publique?
Oui, c'est la recherche publique dans les universités, tout le milieu universitaire français. Voilà, pour être tout à fait honnête, toute la matinée, j'ai eu des entretiens avec des chercheurs d'autres universités afin de créer des premiers contacts et ensuite de postuler sur les postes de maître de conférence pour la prochaine rentrée universitaire.
Voilà, donc les places sont rares, on l'imagine bien. À votre avis, c'est quoi qui va faire la différence entre plein d'excellents chercheurs pour un poste?
Alors, le facteur clé, c'est l'intégration. C'est de montrer qu'en tant que chercheur, on va pouvoir s'intégrer dans cette potentielle future équipe de recherche avec qui on va pouvoir créer des liens, des contacts, créer des projets en commun. Mais cependant, il ne faut pas faire doublon par rapport aux chercheurs existants. Il faut apporter une nouvelle pierre à l'édifice, une nouvelle compétence, quelque chose que les chercheurs actuels n'ont pas ou cherchent à développer. Et pour finir, lorsqu'une université recrute un chercheur, il recrute également son réseau, si on peut dire. Parce que, comme je vous ai dit, la recherche est très internationale. On passe beaucoup par des collaborations avec d'autres universités. Et donc, lorsqu'on est recruté, le laboratoire, l'université qui recrute, aimerait bien ensuite créer des collaborations avec le réseau de la personne recrutée.
Voilà, donc par exemple, travailler, disons, dans le privé pour, je ne sais pas, un GAFAM qui voudrait faire une flotte de véhicules autonomes sans chauffeur, ça vous... Non.
Alors, c'est une option, bien évidemment. Il faut savoir que les salaires dans le privé sont bien plus élevés que les salaires dans le monde universitaire. Donc après, c'est selon les choix de chacun, selon ce qui les attire dans la vie. Alors, il faut savoir que donc, être enseignant-chercheur, c'est pas que être chercheur, c'est aussi être enseignant. Et donner des cours, c'est quelque chose qui me passionne énormément, quelque chose que je ne pourrais pas faire étant dans le monde industriel. Donc c'est aussi une raison pour laquelle je souhaite rester dans le milieu académique, pour à la fois être chercheur et être aussi libre de mes thématiques en soi, parce que lorsqu'on travaille dans une grande entreprise, on doit venir tous les jours de 8h à 18h, on ne choisit pas nos thématiques. Si jamais l'entreprise décide de changer brusquement de thématique pour aller notamment... On peut penser au problème de tournée de véhicules, mais on peut remplacer des véhicules par des tanks qui doivent visiter des villes et accomplir des objectifs. Lorsqu'on travaille dans une entreprise qui décide de changer ses objectifs de recherche pour aller sur quelque chose qui nous correspond moins de manière éthique, le choix, c'est soit de partir, soit de ne pas garder son éthique. En tant qu'enseignant-chercheur, on peut choisir nos thématiques afin de rester dans des choses qui nous conviennent. C'est d'ailleurs moi ce que je fais avec mes véhicules électriques pour la promotion de l'écologie et de tout ce qui est logistique renouvelable.
Et alors, comment va la liberté académique dans les universités où vous avez pu passer ?
À date, je n'ai pas eu de problème, honnêtement. Alors il faut savoir que lorsqu'on est chercheur postdoctoral, on est peu confronté à ça. C'est surtout les enseignants-chercheurs et les professeurs d'université qui sont confrontés à ce genre de choses. Et cette liberté, elle est tout de même... On sent qu'elle peut être menacée parce que les chercheurs ont besoin de financement. Ils font des appels de projets pour lesquels ils présentent le projet sur lequel ils veulent travailler. Et ces appels à projets, ces appels à financement sont soumis à l'État. Et si ces projets ne sont pas dans l'alignement de ce que veut faire l'État, dans ce cas-là, il peut y avoir pas de financement et donc pas de recherche associée à ça.
Donc on attend les prochaines élections ?
On attend que les prochaines élections et on attend que les budgets soient votés tous les ans.
Merci beaucoup.
Merci à vous.